La communication du jour s'intitule « L'impact de la présidence de Donald Trump sur la société et la démocratie américaine ». Et c'est Philippe Etienne qui va nous en parler. Philippe Etienne a eu un parcours exceptionnel qu'il vient de retracer dans un ouvrage que je vous recommande, « Le Sherpa », publié chez Talendier. Il fut d'abord un étudiant brillant, qu'on en juge. Ancien élève de Normale Sup, il est agrégé de mathématiques. Il a obtenu une licence en sciences économiques, un diplôme de l'école des langues orientales en serbo-croate. Enfin, il a fait l'ENA, dont il est sorti en 1980 et a intégré le Quai d'Orsay. Autre particularité de Philippe, le nombre de langues qu'il maîtrise parfaitement. L'anglais, bien sûr, l'allemand, l'espagnol, le russe et le roumain. Son parcours de diplomate n'est pas moins remarquable. Les premières années de sa carrière le conduisirent à Budapest, Belgrade, Bonn, Bruxelles auprès de l'Union européenne, Moscou au moment de la fin de l'Empire soviétique et la Roumanie, Bruxelles à nouveau, et il est nommé ambassadeur en Roumanie donc. Ses avant-derniers postes à l'étranger seront celui essentiel pour la France d'ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union européenne de 2009 à 2014, au moment de la crise financière, et celui de Berlin de 2014 à 2017, au moment de la crise des réfugiés. Pendant ses séjours parisiens, Philippe a occupé des positions non moins importantes. Au cabinet du ministre Bernard Bosson, en charge des affaires européennes, en 1987-88, comme directeur adjoint du cabinet du ministre Hervé de Charette en 1995-97, comme directeur de cabinet du ministre Bernard Kouchner de 2007 à 2009. Enfin, il a été à l'Élysée de 2017 à 2019 le conseiller diplomatique et le sherpa du président Macron. Il a terminé cette carrière vraiment exceptionnelle en qualité d'ambassadeur à Washington, de 2019 à 2023. Pendant ces quatre années, et donc pendant le premier mandat du président Trump, puis pendant le mandat du président Biden, à travers ses déplacements d'une côte à l'autre des États-Unis, comme lors de ses contacts quotidiens avec les principaux responsables du pays, il a acquis une connaissance approfondie du fonctionnement de la démocratie américaine, de son économie, de sa société. Il a assuré un enseignement à l'Université de Columbia à New York en 2023 et depuis trois ans, il assure un enseignement à Normale Sup sur les rapports entre la démocratie et la géopolitique. Philippe, à toi, tu as la parole.
Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Jean-David, Monsieur le Vice-président, cher Haïm Korsia, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Bernard Stirn, Monsieur le chancelier, cher Xavier, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciennes et les académiciens, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire très sincèrement combien je suis honoré, mais aussi impressionné de me trouver cet après-midi devant vous et d'exprimer ma reconnaissance à votre président qui m'a fait l'amitié et surtout la confiance de m'adresser cette invitation. L'honneur est d'autant plus grand ce début de cycle annuel, immédiatement après l'exposé de l'ambassadeur Levitt, qui a magnifiquement planté le décor géopolitique du monde troublé où nous cherchons nos repères, et celui du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères lui-même, qui a donné les lignes de force de notre diplomatie en démontrant en vous démontrant combien la France conserve des atouts importants pour être le moteur de l'indispensable sursaut européen. Il est vrai que le thème que vous m'avez confié a vocation naturelle à figurer en tête de liste parce qu'il s'agit de la première puissance mondiale, mais aussi en raison de l'omniprésence dans notre environnement quotidien, de la personne, des décisions, des déclarations du président Trump, dont la stratégie de communication est tellement efficace qu'on l'a décrite comme saturant la sphère informationnelle, nationale et même mondiale. Et également, bien sûr, du fait des conséquences majeures que cette actualité en perpétuel mouvement, que l'évolution des États-Unis d'Amérique ont pour la France, pour l'Europe, comme pour le monde entier. C'est vrai en particulier de ce qui a un impact direct sur nos entreprises et nos emplois, comme les droits de douane, sur notre sécurité nationale, comme les questions du Groenland ou de l'Iran. Mais c'est vrai aussi de la politique intérieure américaine, tant il est vrai que cette grande démocratie reste une référence et un modèle. On ne peut ici que citer deux jeunes Français, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, partis outre-Atlantique en 1831 à étudier le système pénitentiaire. Le premier en a tiré son magistral essai de la démocratie en Amérique, dont les observations sur les rapports entre liberté individuelle et égalité des conditions restent au cœur de toute réflexion sur nos systèmes démocratiques. Permettez-moi de citer un autre libéral français du XIXe siècle, Édouard de Laboulaye, apprenant l'assassinat d'Abraham Lincoln, dont il avait ardemment soutenu la décision d'abolition de l'esclavage et qui lance en 1865 l'idée d'offrir au peuple américain une statue qui représenterait la liberté éclairant le monde. Au-delà des fonctions que votre président a eu la gentillesse de rappeler dans mon parcours diplomatique, le président de la République m'a confié l'organisation des commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France. D'Omaha Beach à la plage du Dramon, en passant par le cimetière de Suresnes, j'ai eu la chance de rencontrer nos derniers libérateurs américains encore en vie et venus honorer leurs frères qui ont donné leur vie pour notre liberté. Chargé aussi cette année d'accompagner celles et ceux qui, dans notre pays, marqueront, aux côtés de nos amis américains, le 250e anniversaire de leur déclaration d'indépendance, je mesure donc bien, comme vous, la spécificité de nos relations avec ce grand pays qui explique pourquoi, en France encore moins qu'ailleurs, son actualité ne peut laisser personne indifférent, encore moins en ce moment, quand cette actualité est, pour ainsi dire, effervescente. Ce sont donc les aspects internes qu'il m'a été demandé de traiter et sur lesquels je vais me concentrer. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur leurs implications pour notre pays, pour l'Europe, et nous pourrons évoquer la politique étrangère dans la séance qui suivra. Je m'efforcerai d'expliquer, en prenant un peu de champ historique, les origines de cette présidence, de ce qui la distingue. En effet, on ne peut pas comprendre la réalité actuelle des États-Unis sans avoir une vision de l'évolution qu'il a façonnée. L'ignorance de ses racines explique peut-être la difficulté des Européens à comprendre pourquoi les électeurs américains ont porté deux fois Donald Trump à la présidence en novembre 2016, puis en novembre 2024, et aussi leur difficulté à comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif américain. Les malentendus transatlantiques fondés sur la croyance erronée de chacun qu'il connaît bien l'autre ne sont d'ailleurs pas chose nouvelle et existent dans les deux sens. J'en ai fait moi-même l'expérience douloureuse à Washington en tant qu'ambassadeur de France lors des débats qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty sur le débat qui portait sur la défense des principes de notre République. Je vais donc évoquer d'abord l'historique du pouvoir présidentiel aux États-Unis. La Constitution adoptée à Philadelphie le 17 septembre 1787, dans la même salle que la Déclaration d'indépendance 11 ans plus tôt, a certes été complétée par 27 amendements jusqu'en 1992, dont les 10 premiers, le Bill of Rights, ont immédiatement cherché à empêcher les abus du pouvoir fédéral. Mais malgré tous les bouleversements historiques survenus entre-temps, de la suppression de l'esclavage à l'élargissement du droit de vote, l'équilibre ainsi couché sur le papier dès le début de la jeune République n'a plus été modifié, au moins en droit. Lors de mon arrivée à Washington, un spectacle original, « What the Constitution means to me », ce que la Constitution veut dire pour moi, était présenté au Kennedy Center, qui aujourd'hui, comme vous le savez, a été rebaptisé Trump Kennedy Center, pour demander s'il ne fallait pas adapter ce texte au XXIe siècle. Eh bien, la réponse invariable donnée par les spectateurs à la fin du spectacle, car ils étaient interrogés, était négative, tant l'attachement des Américains à leur texte fondamental est fort. Et parmi les équilibres ainsi sanctuarisés, il y a la répartition des pouvoirs, notamment, je reviendrai sur le judiciaire, notamment entre le législatif et l'exécutif, entre le Congrès et le président. Et la prééminence du législatif s'exprime en principe par l'ordre des articles de la Constitution, comme vous le savez, puisqu'il est défini et organisé par l'article 1er, alors que le pouvoir exécutif suit dans l'article 2. Mais le débat entre fondateurs sur l'importance et les dangers d'un pouvoir exécutif fédéral fort n'a pas cessé dans la pratique depuis le début. Deux des fondateurs devenus présidents ont déjà pris certaines libertés. Le premier, George Washington, déclare ainsi la neutralité des États-Unis entre Paris et Londres sans consulter le Congrès. Et l'argument du privilège de l'exécutif qui permet de garder des informations confidentielles apparaît déjà à cette époque. Thomas Jefferson agit de même avec l'achat de la Louisiane. Et toujours à cette époque des débuts, les présidents signent déjà des executive orders, dont on sait l'usage extensif qu'en fait Donald Trump. Le 19e siècle sera celui de présidents faibles, en général, avec des exceptions notables, dont Abraham Lincoln, mais aussi Andrew Jackson, et autour de 1900, William McKinley, deux des références historiques de Donald Trump. Le XXe siècle voit au contraire s'affirmer de plus en plus le pouvoir présidentiel, à l'exception de deux périodes. Le lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les déboires de Woodrow Wilson, qui n'arrive pas à faire adopter la Société des Nations par son propre pays. Et autre exception, la période de la débâcle du Vietnam et du scandale du Watergate, qui est l'époque où le Congrès adopte, c'est en 1973, le War Powers Resolution, qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain rapport de force entre le président, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, et le Congrès. Je n'aurais pas dû vous montrer déjà ces diapositives. Je les reprends pour ne pas distraire l'attention. Alors, ça, ce sont les périodes d'exception du XXe siècle où le pouvoir du président, on voit le pouvoir présidentiel baisse. Sinon, nous voyons une montée constante du pouvoir présidentiel, et notamment avec Franklin Delano Roosevelt, le premier président à invoquer les pouvoirs d'urgence en temps de paix, nous y reviendrons avec Donald Trump, qui crée par ailleurs un immense appareil présidentiel, dont le bureau des budgets et le bureau des ressources humaines, qui sont aujourd'hui des instruments privilégiés de l'administration Trump. Et bien sûr, Ronald Reagan, qui reprend cette tendance à l'accroissement du pouvoir présidentiel, mis entre parenthèses, après la fin de la présidence de Richard Nixon. On peut s'interroger sur les évolutions qui expliquent cette tendance au renforcement des pouvoirs présidentiels que Donald Trump reçoit en héritage et accentue encore. J'en citerai deux. D'une part, la place prise depuis plus d'un siècle par la politique étrangère et les interventions des États-Unis à l'étranger, sans oublier le développement de l'arme nucléaire. D'autre part, l'utilisation par les présidents des nouveaux médias pour parler directement aux Américains. D'abord les grands titres de la presse écrite, les magazines, puis la radio, puis la télévision, puis à partir de 2004 et surtout 2008, les réseaux sociaux dont Donald Trump et ses équipes ont démultiplié l'usage avec une grande efficacité et un grand sens de l'innovation. Un aspect important de cette montée en puissance du pouvoir présidentiel est ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire, Unitary Executive Theory, dont les défenseurs affirment qu'au sein de la sphère exécutive, rien ne devrait échapper au pouvoir présidentiel. Les décisions les plus récentes de la Cour suprême ont été dans ce sens. Ce sujet, d'ailleurs, a pris avec l'actuelle présidence un tour spectaculaire dans trois domaines. Le renvoi des inspecteurs généraux dans les ministères, la valse des procureurs et l'autorité sur le ministère de la Justice lui-même, le DOJ, et la suppression de l'autonomie d'agences fédérales comme celle de l'environnement ou des marchés financiers. Et c'est ce dernier point qui actuellement fait débat pour savoir s'il irait jusqu'à s'appliquer à une institution qui, évidemment, est tout à fait particulière et qui est la Banque centrale, la Federal Reserve Board. C'est un débat qui est soumis à la Cour suprême actuellement dans l'affaire Liz Cook. Dans la vie politique, le système des primaires qui a été créé en 1901 en Floride pour des élections locales et en 1910 dans l'Oregon pour les élections présidentielles accentue le pouvoir des présidents forts en leur donnant une influence considérable sur les élus de leur parti, surtout les membres de la Chambre des représentants en campagne permanente car soumis au vote tous les deux ans. On voit l'usage qu'en fait Donald Trump qui suscite des rivaux à tous ceux qui, au Congrès, refuseraient de suivre ses orientations politiques. Et puis, il faut aussi mentionner le poids croissant de l'argent dans les campagnes, surtout depuis le déplafonnement des dépenses électorales par la jurisprudence Citizens United de la Cour suprême en 2010. Cette évolution affecte-t-elle aussi les pouvoirs des États fédérés ? En effet, il y a 250 ans, l'équilibre entre le nouvel État fédéral et les 13 colonies était encore plus délicat, encore plus fondamental comme question que l'équilibre entre la présidence et le Congrès. Alors, le renforcement du pouvoir présidentiel a-t-il aussi diminué le pouvoir des 50 États ? La réponse à cette question doit être nuancée. On se rappelle que Donald Trump a fait campagne dès 2016 contre le swamp, le marécage washingtonien, mobilisant une certaine tradition libertaire hostile aux élites fédérales et préférant les gouvernements locaux. Cette tradition avait été incarnée et relancée par le Tea Party quelques années avant l'émergence de Donald Trump. Ce qui, vu de loin, peut paraître comme un paradoxe, ne l'est pas. Un président américain peut en appeler à ce ressort dans l'opinion, tout en cherchant lui-même à exercer un pouvoir fort depuis Washington, car l'ennemi commun est alors la bureaucratie, voire le Congrès à Washington aussi. Par ailleurs, Donald Trump a mis en avant les États fédérés quand cela l'arrangeait, comme ses prédécesseurs bien sûr. Sous son premier mandat, je m'en souviens, j'étais sur place, les 50 gouverneurs ont été largement autonomes pour gérer la pandémie du Covid. Autre exemple, quand le président Trump n'a pas voulu promettre une loi fédérale contre l'avortement parce qu'il savait qu'une majorité de la population y était opposée, il a renvoyé la question à des décisions État par État. Ce qui a évolué avec le temps, c'est la carte politique. Et c'est là où je commence à vous montrer des diapositives en espérant que je vais savoir les faire marcher. Alors oui, enfin, ce ne sont que les premières. Hein. Vous voyez ce que la démonstration veut être. Il y a eu, d'une part, les grandes tectoniques géographiques aux États-Unis, notamment le passage du contrôle du Sud. Le Sud était contrôlé par les démocrates qui avaient soutenu la ségrégation, comme George Wallace. Eh bien, le contrôle passe aux républicains, le parti de Lincoln, au fur et à mesure que les démocrates endossent la bataille pour les droits civiques et que les républicains assument un virage conservateur. Mais plus généralement, on voit la couleur de chaque État se stabiliser, les uns rouges, les autres bleus, figeant la carte du pays à l'exception de quelques pivots, les fameux swing states. Cette tendance aujourd'hui se renforce encore avec la volonté de chaque parti de profiter de ses majorités locales pour redessiner les dernières circonscriptions qui lui échappent et pour envoyer au Congrès des délégations quasi unicolores. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le gerrymandering, y compris et en particulier dans les deux plus importants États, le Texas rouge et la Californie bleue. Les États démocrates représentent donc de plus en plus collectivement, étant homogènes, l'une des principales oppositions à un président républicain. On y reviendra à propos des contre-pouvoirs. Et je présente aussi l'autre diapositive qui montre l'évolution de 2016 à 2024, comptée par comptée, je crois, deux pays où l'on voit polarisation géographique s'installe avec différentes couleurs selon que chaque comté est solidement installé dans un parti ou tend vers un parti. Alors cette évolution, qui voit chaque État, à quelques exceptions, devenir solidement républicain-démocrate, comporte des risques de fragmentation juridique et économique de l'espace fédéral. Pour donner un exemple, la Californie, qui a un vrai rôle prescripteur en tant qu'État le plus important, est devenue le centre de la résistance des politiques pro-climatiques que Washington essaie de réduire par des législations fédérales. On sait en effet que le président Trump a retiré pour la deuxième fois son pays de l'accord de Paris et que ce sujet du climat est devenu malheureusement un vrai marqueur idéologique. Le risque de division, sinon de fragmentation, concerne d'autres sujets encore plus sensibles peut-être, sans aller jusqu'au scénario, fiction ou catastrophe de certains films récents renouant avec l'histoire de la guerre de sécession, on pense aux affrontements dans certaines grandes villes démocrates, dont certaines, Portland ou Minneapolis, sont devenues des symboles. L'évocation de ces incidents m'amène à aborder une autre question, celle de ce qu'on appelle les guerres culturelles. Ces incidents à l'occasion de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter et aujourd'hui du déploiement de la police chargée du contrôle de l'immigration. Les tendances conservatrices et progressistes de la société américaine n'ont pas cessé de s'affronter au cours des siècles passés. Et bien sûr, ça a commencé jusqu'à la guerre de sécession par le thème de l'esclavage. À partir de 1876, c'est la ségrégation. Depuis, les grandes lois sur les droits civiques et le droit de vote, adoptées sous la présidence de Lyndon Johnson, le champ de bataille a continué à se développer, à changer de terrain et à se déplacer en particulier vers ce qu'on appelle les questions de diversité, d'égalité, de discrimination, d'intégration, ce qu'on appelle DEI, devenu un chiffon rouge pour l'administration Trump, qui a banni ces termes et qui a fait pression en ce sens sur les milieux économiques comme sur les milieux académiques. Il faut aussi citer la libéralisation des mœurs qui a contribué à des débats assez clivants. Plus que le mariage entre personnes du même sexe, aujourd'hui largement admis, c'est la question de l'avortement, donc, et désormais celle des personnes transgenres qui sont au premier plan des débats. Et l'immigration, bien sûr. L'immigration a très tôt constitué un sujet polémique, quand bien même elle nourrissait le récit sur le rêve américain et apportait un carburant indispensable au développement impressionnant du territoire et de l'économie. Il faut avoir en tête les grandes vagues d'arrivées qui ont marqué l'histoire américaine et façonné le pays. Alors ici, vous voyez... Pardon. Là, ça s'emballe. Vous voyez ces trois grandes vagues d'immigration ont contribué à constituer la population américaine telle qu'elle est. Et là, j'aime bien ces cartes parce que, état par état, on voit l'origine de la première population d'immigrés pour chaque état. Et on le voit en 1920 et en 2022. Alors, vous pouvez, je pense, le lire, mais peut-être pas d'aussi près que je voudrais. Mais évidemment, il y a quelque chose qui apparaît nettement, et ce quelque chose qui apparaît nettement, c'est l'envolée de l'immigration latino-américaine, qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même le monopole de la langue anglaise redevient une question politique sensible. Alors, je vais passer à une autre carte qui montre le développement de cette émigration latino-américaine, ce qu'on appelle les latinos. 20% aujourd'hui de la population totale sont un facteur démographique et politique majeur, non seulement dans le Sud, mais aussi, comme on le voit sur cette carte qui compare la situation entre 2007 et 2014, donc à partir d'une année où il y avait déjà beaucoup de ces immigrés dans le Sud, c'est la situation des grandes villes du Nord, auxquelles on ne pense pas toujours, qui est intéressante parce que c'est là aussi que se concentre désormais cette immigration latino-américaine. Comme vous le savez, avec l'économie, le contrôle de l'immigration a été le principal thème de la campagne de Donald Trump en 2024. Un thème gagnant, car une majorité des Américains trouvait trop laxiste la politique menée au début de l'administration Biden, qui a essayé ensuite de corriger le tir, mais c'était trop tard. La vigueur de la politique menée par la nouvelle administration aurait abouti, et notamment la fermeture de la frontière, aurait abouti à ce que, pour la première fois depuis des décennies, le solde migratoire devienne négatif l'an dernier. Je parle au conditionnel parce qu'il faut attendre sans doute de voir les statistiques définitives. Cette politique de restriction migratoire a toutefois un triple coût budgétaire, évidemment. Il faut financer tout l'appareil administratif mis en place, mais aussi économique, en privant les États-Unis d'une partie de sa main-d'œuvre, et désormais politique, comme on le voit, avec les violences qui accompagnent l'action des forces de police spécialisées ICE ICE. Alors, les deux sujets des guerres culturelles et de l'immigration ont pour moi un facteur commun. La place des communautés blanches, issues des grands courants de l'immigration européenne dans la société américaine. La part de ces communautés a baissé, bien sûr, mécaniquement, au cours des dernières décennies. J'aurais aussi pu parler de l'augmentation de l'immigration asiatique, par exemple venue d'Inde. Et aujourd'hui, les communautés d'origine européenne sont en dessous de 60%, 57,5% je crois, en 2024. Les Américains d'origine européenne n'ont pas réagi à l'évolution de leur pays de manière uniforme. De façon, je le reconnais, trop schématique, j'identifierai deux tendances au sein de cette population qui ont fortement influencé le cours des événements ces dernières années en s'opposant l'une à l'autre. L'idéologie communément appelée wokisme, l'éveil, est née sur les campus des grandes universités au sein de certaines élites libérales. Il s'agissait, tirant le fil des batailles pour les droits civiques, de revisiter l'histoire américaine et de toutes les injustices accumulées et attribuées au pouvoir de l'homme blanc au détriment de diverses minorités, en commençant par les persécutions des tribus indiennes ou les découvertes de Christophe Colomb. Cette lecture s'est d'ailleurs étendue aux pays européens, notamment à travers les études dites postcoloniales. Son principal point d'application restait toutefois le sort des communautés noires, des Africains américains, dont une partie a remarquablement réussi dans la société, notamment grâce à une série d'universités qui leur sont réservées, comme Howard à Washington, mais dont une autre partie continue de subir racisme et discrimination, comme on a pu le voir pendant la pandémie. À l'inverse, une partie importante de groupes aujourd'hui moins favorisés, issus des immigrations venues de toute l'Europe au XIXe et au début du XXe siècle, comme de l'Irlande ou de l'Italie, pour échapper à la pauvreté, parfois à la famine, une partie de ces descendants s'est sentie marginalisée par la triple évolution de l'économie, de l'immigration, des mentalités, en résumé par la mondialisation. C'est le phénomène que j'appellerais des Appalachiens, du nom de cette chaîne de petites montagnes qui court du nord au sud dans la partie est des États-Unis et qui concentre une part importante des activités minières et industrielles traditionnelles. Un livre paru en 2016 a donné de la visibilité à ces communautés. Hillbilly Elegy, dont l'auteur, promis à une grande célébrité, J.D. Vance, raconte comment sa famille, entre le Kentucky et l'Ohio, a subi les conséquences d'une crise de déclassement aux multiples facettes, la désindustrialisation, les opioïdes, pour n'en citer que deux, et comment lui-même a pu, grâce à l'amour de ses proches, dont sa grand-mère Courage, sortir par le haut de cette situation qui avait piégé une bonne partie de sa famille. J'ai rencontré des représentants de cette Amérique, des laissés pour compte, qui m'ont dit combien elle était attachée à la valeur travail et combien elle sentait cette valeur négligée par rapport au développement des politiques sociales et notamment des politiques anti-discrimination. Alors, toutes ces questions agitent la société américaine depuis des décennies. Elles ne sont pas apparues avec Donald Trump. Des chercheurs avaient déjà identifié le concept de guerre culturelle au début des années 1990. L'actuel président, malgré son statut social, ses origines new-yorkaises, a eu l'intuition qu'il y avait là un électorat à prendre, des thématiques à occuper. Les démocrates eux-mêmes ont commis des maladresses de langage dans les campagnes, notamment en 2016 et 2024, qui leur ont coûté cher en confirmant une image de parti ayant abandonné les milieux populaires. Pourtant, beaucoup de démocrates sur le terrain ont compris le problème il y a déjà un certain temps et depuis plusieurs années d'ailleurs cherchent à se distinguer de ce qu'on appelle donc l'idéologie woke. Malgré tout, leur électorat est de plus en plus concentré sur les milieux les plus éduqués. Là, vous avez par exemple la répartition, ou plutôt la comparaison entre les électeurs selon leur degré d'éducation. On observe aussi, et ça c'est assez impressionnant, un clivage croissant entre femmes et hommes, les premières votant davantage pour les démocrates, et l'écart s'élargit, en tout cas s'agissant des jeunes générations, comme vous le voyez sur cette diapositive. Il y a donc bien une ou des coupures au sein de la société américaine, au plan social et aussi au plan territorial. Une autre anecdote personnelle. Le dirigeant d'une grande institution fédérale, que je préfère ne pas citer pour le protéger, me donnait à mon arrivée à Washington l'exemple de l'usine que son père dirigeait dans le Midwest. Autrefois, me disait-il, dans cette usine, les cadres et les ouvriers déjeunaient ensemble. et maintenant ils sont séparés. Venant d'une telle personnalité, ce récit m'avait frappé. Aux deux extrêmes, des phénomènes d'intolérance se sont développés, qui se traduisent par exemple par la censure des bibliothèques, par la censure des programmes d'éducation. Et l'on voit les électorats des deux grands partis de moins en moins susceptibles de changer de camp. Regardez cette diapositive, c'est impressionnant. Les courbes qui montent sont les courbes de ceux qui se déclarent d'un côté très conservateur ou très libéral. Pourtant, il ne faut pas croire que les Américains sont en majorité, pour ainsi dire, radicalisés. Au contraire, la polarisation croissante de leur pays en inquiète beaucoup. Les sondages attestent une certaine déception vis-à-vis du système politique qui produit ce résultat. Et on assiste à de multiples tentatives de troisième voie qui n'arrivent toutefois pas à prospérer dans un système conçu pour le bipartisme. La part des indépendants qui ne se déclarent ni démocrates ni républicains, augmente ces dernières années. Elle est autour de 35%, semble-t-il, et tend même à dépasser les partisans déclarés de chacun des deux grands partis. Il y a au moins une conséquence positive, toutefois, de cette évolution, c'est la montée du taux de participation lors des dernières élections. Je le montre ici. Les élections de 2020 et de 2024 ont été deux des élections au taux de participation le plus élevé en un siècle. Et d'ailleurs, il faut aussi avoir en tête que cette participation varie selon les communautés. Vous voyez ici, à droite, la partie participante le plus, à la fois par âge et par communauté. On voit qu'il y a de fortes différences. En particulier, certaines communautés votent beaucoup moins, par exemple les Africains-Américains ou les Latino-Américains. Mais il y a eu à la dernière élection présidentielle un phénomène intéressant et dont a su profiter Donald Trump, c'est qu'alors que ces communautés votaient et continuent de voter majoritairement pour les démocrates, marginalement, un déplacement mais assez significatif pour peser sans doute dans le résultat final, a montré une augmentation du soutien aux candidats républicains, c'est-à-dire à Donald Trump. Alors, une question que je souhaitais me poser, que je vous pose aussi, les divisions au sein de la société américaine sont-elles alimentées par les réseaux sociaux ? C'est une question d'actualité. On le sait, Internet a été conçu au début dans les garages de quelques jeunes génies en Californie comme un formidable outil d'émancipation et de liberté. Cette philosophie libertarienne reste forte aujourd'hui dans certains milieux de la tech. Le succès des crypto-monnaies s'est affirmé en partie comme héritage de cette philosophie libertarienne. Mais le modèle économique des grandes plateformes, fondé sur des algorithmes jalousement gardés, malgré les demandes de transparence, évidemment, a modifié la donne. Les usagers de ces plateformes bénéficient d'innombrables et chatoyantes possibilités de communication, mais ils se retrouvent souvent, de fait, enfermés dans des bulles informationnelles aux parois de plus en plus rigides, les séparant de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est sans doute un élément de la fracture du débat démocratique. La puissance de ces grandes plateformes leur a permis de s'opposer à certains projets de législation dans leur pays. Pourtant, là aussi un témoignage personnel, si vous le voulez bien, une régulation est souvent réclamée aux États-Unis aussi, et même au sein du Congrès, à l'instar des règlements européens RGPD, DSA, DMA, c'est-à-dire avec les trois objectifs de la protection des données personnelles, de la modération des contenus dangereux et de la prévention des situations de monopole. Ces entreprises se sont ralliées au président Trump sous son deuxième mandat. Ce n'était pas le cas sous son premier mandat. Et bien sûr, elles cherchent aujourd'hui à utiliser le levier du gouvernement américain pour remettre en cause les lois européennes que j'ai citées. Je voudrais maintenant me pencher sur l'importance du fait religieux, car je crois qu'il compte dans l'évolution de la société américaine. Un fait d'ailleurs qui a toujours été plus important aux États-Unis qu'en France, malgré une forme de séparation et de protection du pluralisme qui est ancrée dans la Constitution américaine et qui amène parfois à croire que nous avons un peu les mêmes situations. George Washington prête le premier serment présidentiel sur la Bible et termine par les mots « et que Dieu m'assiste ». formalité qui ne figure pas dans la Constitution, mais qui ouvre une tradition. Pourtant, il est réputé déiste et franc-maçon, comme d'ailleurs la plupart des pères fondateurs, représentés sur des vitraux dans cet étonnant monument qu'est le temple franc-maçon de Philadelphie, que je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir. Il est impossible donc de comparer notre régime laïque et la situation américaine en matière de séparation État-Église. J'en ai eu la confirmation en participant à un prayer breakfast dans un grand hôtel de la capitale où des parlementaires des deux partis se mêlent à toutes sortes de responsables religieux et de personnalités, parfois venues de l'étranger, pour prier et chanter, affirmant leur foi chrétienne et leur fidélité à l'Évangile. Pourrait-on imaginer une telle manifestation en France ? Et je me souviens de l'étrange conclusion donnée à l'époque à cette démonstration d'amour chrétien par Donald Trump lui-même, c'était son premier mandat, monté sur la scène pour vilipender ses adversaires politiques qui venaient de mener contre lui une procédure d'impeachment. La scène religieuse connaît en fait une double évolution. Paradoxale, peut-être, aux États-Unis, car la religiosité, en fait, n'arrête pas d'y reculer, mesuré par le pourcentage des Américains qui se reconnaissent dans une religion. Et ce recul est particulièrement affirmé chez les jeunes. Donc ici, quelques diapositives. Vous voyez que, évidemment, l'âge compte beaucoup. En d'autres termes, que ce soit l'identification comme chrétien, le fait que l'on prie ou que l'on aille à la messe ou au service, vous voyez que, bien entendu, l'âge compte beaucoup. Mais les générations prenant de l'âge, eh bien, les jeunes qui se sont déclarés non affiliés, quand ils vieillissent, ne changent pas d'opinion. C'est ce que montre cette diapositive. Et là, vous avez ici, pour chaque religion, une répartition par région aux États-Unis. Donc, ça, c'est la situation mesurée notamment par l'Institut de recherche Pew, qui fait des sondages très, très, très intéressants régulièrement aussi sur cette question. Et pourquoi parlais-je d'évolution, double évolution paradoxale ? Parce que pourtant, l'évolution, l'influence du facteur religieux ne cesse, elle, d'augmenter à travers un certain nombre de groupes qui participent activement, essentiellement à droite, à la vie politique. C'est le cas des évangélistes blancs et aussi d'une partie de l'Église catholique. Leur influence est déjà décisive sous le premier mandat de Donald Trump et ne fait que croître sous son deuxième mandat, au début duquel un bureau pour la protection des chrétiens est créé au sein de la Maison-Blanche. Cette priorité s'étend au-delà des frontières, on l'a vu au Nigeria par exemple, et on sait combien l'influence des évangélistes est forte en faveur d'Israël. L'exemple de l'Église catholique américaine montre combien la vie religieuse subit les effets de la polarisation de la société. J'ai vu la conférence épiscopale américaine se diviser en deux, entre conservateurs se sentant proches du pape Benoît et adversaires acharnés, bien sûr, du droit à l'avortement, au point qu'ils voulaient refuser la communion au président Biden, pourtant le seul président catholique pratiquant dans l'histoire américaine, et progressistes soutenant le pape François et accordant la priorité en matière d'engagement aux droits des migrants. On constate aussi une division au sein des communautés juives, libérales ou conservatrices. Quant aux évangélistes et protestants africains-américains, il n'est pas nécessaire de souligner leurs différences avec leurs co-religionnaires blancs. Le président Trump a su tirer parti de l'état de la société aussi sur ce plan-là. Je le disais, sous son premier mandat, il a reçu le soutien déterminé de groupes évangélistes très actifs qui voyaient en lui l'instrument divin pour atteindre leurs objectifs, à commencer par l'annulation de la jurisprudence Roe versus Wade de la Cour suprême sur le droit à l'avortement. Le soutien des écoles privées confessionnelles est aussi pour ces groupes un objectif prioritaire. Peu leur importait la réputation personnelle de Donald Trump. Après tout, l'Évangile montre le rôle que peuvent jouer des pêcheurs comme Zachée. Le deuxième mandat se présente différemment après la tentative d'assassinat de Donald Trump, le 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie. Le président réélu considère que c'est la main de Dieu qui l'a sauvé. Son rapprochement avec les églises conservatrices n'en est que plus important. Une partie de ses soutiens baigne dans la conviction que le pouvoir politique est vraiment là pour faire la volonté divine. L'assassinat du prêcheur le plus doué de cette jeune génération, Charlie Kirk, le 10 septembre 2025 dans l'Utah, lui donne un martyr. Le vice-président Vance, là encore, est un témoin et un acteur intéressant de l'état de la société. Converti au catholicisme en 2019, il représente une idéologie très conservatrice sur le plan des valeurs, ouvertement nataliste, mais aussi favorable à la doctrine sociale de l'Église. Bien avant d'être élu sénateur dans l'Ohio, j'avais eu une conversation avec lui où il me disait par exemple combien les difficultés de sa famille, je les ai évoquées, de sa famille très proche l'avaient convaincu de l'importance de l'accès de la population aux services de santé. J'ai ainsi commencé à aborder les sources, ce que j'appellerais les sources idéologiques du trumpisme, du mouvement MAGA et je dirais aussi de ses contradictions. Car ces influences religieuses constituent une partie importante des courants, auparavant souterrains ou peu visibles, qui ont donné naissance au trumpisme et au mouvement MAGA. Les plus radicaux de ces mouvements sur le plan religieux, mais certainement pas les plus influents, ne sont sans doute pas loin de rêver à l'institution d'une théocratie, et leurs adversaires, pour le dénoncer, décrivent ce rêve comme proche de la dystopie de Margaret Atwood, la servante écarlate. Donald Trump lui-même n'est pas connu pour être un idéologue. Bien au contraire, ses décisions, il les prend, on le voit, à l'instinct, ce qui d'ailleurs ne facilite pas toujours pour ses équipes la lisibilité de sa ligne par rapport à certaines idéologies. Mais depuis longtemps, il a des compagnons de route qui, eux, ont un cap idéologique bien déterminé. Ils l'ont rejoint en 2016, et certains même bien avant. Mais ils n'ont pas réussi à dominer son premier mandat, étant tenus en échec ou à distance par les fameux « adultes dans la salle ». En revanche, le deuxième mandat leur a ouvert un champ libre, ce qui explique l'intensité beaucoup plus grande des décisions politiques depuis un an, quand bien même les bases étaient souvent déjà posées entre 2016 et 2020. Au départ excentré, ces courants dits « nationaux conservateurs » tels que l'Institut Clermont vont se retrouver aspirés vers le cœur du débat politique avec le ralliement de l'un des principaux think tanks de la place, le Heritage Foundation, auteur du fameux projet 2025, dont le candidat Trump disait habilement qu'il ne le connaissait pas, afin de ne pas être attaqué par ses adversaires sur cette base, mais dont le président Trump s'inspire certainement, y compris à travers l'un des auteurs du projet, Russell Vought, qui est maintenant placé au cœur de la machinerie fédérale. Personnellement, je me souviens des réunions organisées pour quelques ambassadeurs dont je faisais partie par le directeur de la Fondation Heritage, Kevin Roberts, qui était assez explicite sur les orientations préparées par l'après-Biden. Je me souviens aussi de ma rencontre avec Stephen Miller, qui fait partie des rares personnes qui accompagnent Donald Trump depuis très longtemps, avant même sa première élection, depuis que lui était encore étudiant. C'était la plume du président sous son premier mandat et il m'expliquait alors, sans détour, très franchement, que la fonction publique fédérale devait être fondamentalement réformée et réduite. C'est ce que Doge et Elon Musk ont été chargés de mettre en œuvre. Aujourd'hui, Stephen Miller est secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche et l'un des acteurs majeurs de l'administration auprès du président Trump. Donc cette école de pensée, au départ marginale, est ancienne. Claremont a été fondée en 1979 avec l'objectif de revenir à la pureté originale des États-Unis, c'est-à-dire à l'âge d'or, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, en tout cas avant la formation de l'État profond tant abhorré. Aux extrêmes de cette tendance, on trouve des penseurs comme Curtis Yarvin, qui semblent même remettre en cause l'ordre constitutionnel et appeler de leur vœu un pouvoir autoritaire établissant un contact direct avec le peuple, et donc gérant le pays comme une grande entreprise. Mais la majorité, évidemment, est attachée à une constitution, mais à une constitution revue dans la pureté de ses origines, et c'est aussi, sur le plan des juristes, l'objectif de la Federalist Society, fondée à Yale en 1982, qui prône une interprétation originaliste et a cherché, avec un certain succès, à faire progresser ses idées à travers le renouvellement des corps judiciaires américains lors du premier mandat de Donald Trump. Je me souviens de débats très intéressants que j'ai eu la chance d'avoir avec certains membres conservateurs de la Cour suprême sur le deuxième amendement de la Constitution, utilisé pour repousser les restrictions au port d'armes qu'une bonne partie de l'opinion publique pourtant appelle de ses voeux chaque fois qu'une tuerie de masse démontre les dangers de la prolifération des armes à feu. De même, l'interprétation du premier amendement, la liberté d'expression, le free speech, est un point très sensible dans le débat américain. Je suis frappé qu'on retrouve ces deux textes, premier et deuxième amendement, au cœur de l'actualité la plus récente des derniers jours. Une autre source importante, évidemment, c'est l'alt-right de Steve Bannon, qui va développer l'idéologie MAGA. Bannon rencontre Trump dès le début des années 2010, devient son directeur de campagne en 2016. Son rapide limogeage ne met pas fin à son rôle du tout. C'est lui qui, le premier, établit des passerelles solides avec certains partis européens idéologiquement proches. Son influence est forte en matière migratoire. Il fait aussi partie de ceux qui inculquent à Donald Trump le rejet des aventures extérieures. Le ralliement de la droite libertarienne et technologique apporte une nouvelle force à cette coalition. Je me suis laissé dire, je ne sais pas comment, que M. Peter Thiel, qui incarne cette tendance, pourrait être prochainement dans ces murs. Et je crois que c'est fort intéressant, car dans un article publié le 10 janvier 2025 par le Financial Times, Peter Thiel théorise la nécessité de ce qu'il appelle une apocalypse, au sens biblique du terme, le dévoilement grâce à Internet des anciens complots. Et il voit dans Donald Trump celui qui a mis fin à l'ancien régime. Et il voit dans l'alliance de la tech et du peuple le moyen de dévoiler la vérité, mais aussi de reconstruire et de réconcilier la société. Je n'en dis pas plus, vous en saurez beaucoup plus un peu plus tard. Sur le plan économique, l'abandon des principes du libre marché conduit à la naissance de ce que j'appellerais peut-être abusivement d'un nouveau genre de capitalisme d'État qui contribue à renforcer le pouvoir de l'administration fédérale et surtout du président. Par exemple, quand cette administration prélève une taxe en échange de l'autorisation donnée à une entreprise d'exporter des semi-conducteurs en Chine, ou bien quand l'administration prend une participation au capital d'acteurs économiques dans des domaines sensibles, tels que les minerais critiques. Sans parler, bien sûr, de l'explosion des droits de douane, couteau suisse du gouvernement, car à multiples usages, depuis la compensation des baisses d'impôts dans le budget fédéral jusqu'à la coercition des partenaires récalcitrants, en passant par la réindustrialisation du pays. S'agissant des droits de douane, il n'est pas nécessaire de rechercher des influences idéologiques extérieur au président. Donald Trump semble avoir été attaché à cette idée très tôt, bien avant d'accéder à la présidence, idée dont il a fait un pilier de sa gouvernance économique. Comme dans d'autres domaines, on pourrait y voir d'anciennes filiations historiques à l'époque des théories mercantilistes et à l'époque où les droits de douane étaient en effet une ressource fondamentale des budgets fédéraux. On voit dans cette coalition idéologique des points communs très forts, comme la volonté de déconstruire l'administration fédérale traditionnelle pour reconstruire un nouveau pouvoir fort, mais aussi des contradictions inévitables, comme avec toute coalition. Et ces contradictions n'ont pas manqué d'éclater au grand jour depuis un an. L'une d'entre elles, déjà esquissée, est la conséquence de l'arrêt de l'immigration et du départ de nombreux travailleurs d'origine étrangère, conséquence sur les secteurs de haute technologie et la recherche scientifique d'une part, sur des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre peu qualifiée comme l'agriculture ou le bâtiment d'autre part. Par ailleurs, la manière dont les agents de ICE agissent pour arrêter et déporter des immigrés choque au sein même du camp présidentiel. J'en veux pour preuve les commentaires du podcasteur Joe Rogan. Une autre contradiction, potentielle au moins, est que le président Trump, en montrant sa force à l'extérieur, quand il bombarde l'Iran ou enlève Maduro, inquiète sa base MAGA, à laquelle il a promis l'arrêt des engagements extérieurs, dont on a vu les conséquences catastrophiques au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Aussi veille-t-il à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage d'un engagement militaire durable. Les opérations spéciales, aériennes, maritimes ont sa préférence, en complément des pressions économiques et des intimidations politiques. Troisième observation, la promesse de servir les électeurs des milieux populaires, combinée avec une politique favorable aux entreprises, certainement, peut susciter des choix délicats. J'en veux pour preuve certaines difficultés des républicains au Congrès, quand ils sont mis sur la sellette par les démocrates, alors qu'ils sont majoritaires, pour justifier un certain nombre de refus ou de délais dans les domaines de la santé publique ou de la protection sociale en général. Dans le même ordre d'idées, les grandes plateformes technologiques ralliées à Donald Trump depuis 2024 ne partagent évidemment pas les tendances libertariennes anti-monopole, et le gouvernement doit donc là aussi piloter entre plusieurs tendances, y compris celles qui sont plutôt des sensibilités, dont celle de la Première Dame d'ailleurs, qui veulent protéger des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle les plus jeunes et les plus fragiles. Il est normal qu'au bout d'un an d'exercice du pouvoir aussi intense, des désaccords s'expriment au sein d'une majorité, même très, très, très soudée au départ. Les prises de position du sénateur Josh Hawley ou le départ fracassant d'une fidèle comme la représentante Marjorie Taylor Greene sont quand même des indices assez significatifs d'un malaise chez certains soutiens de la première heure. Alors, j'en viens maintenant à au fonctionnement de la démocratie américaine, puisque les adversaires de l'administration Trump et certains observateurs évoquent un certain nombre de préoccupations sur une dérive possible vers une démocratie qui serait vidée d'une partie importante de sa substance. Et il faut donc voir quels sont les éléments qu'ils mettent en avant pour justifier cette crainte. J'ai déjà évoqué le pouvoir exécutif et donc l'augmentation du pouvoir exécutif. Là, il parle d'abus du pouvoir exécutif, notamment le recours fréquent aux executive orders, surtout sur des sujets fondamentaux comme le droit de citoyenneté, donc décision portée, comme vous le savez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, devant la justice, le recours au pouvoir d'urgence, l'utilisation des forces militaires, pour l'instant uniquement de la garde nationale, mais parfois contre l'avis des gouverneurs concernés. Ce sont bien sûr, surtout pour ces jours-ci, les actions des policiers de ICE, dont j'ai déjà parlé, dont le manque de formation est mis en cause, qui sont en première ligne dans ces critiques, surtout après la mort de deux citoyens à Minneapolis. Autre domaine mentionné, merci. Autre domaine mentionné dans ces critiques, la politisation de la fonction publique. Parce que dans le système américain, il y a les political appointees, ça c'est traditionnel, mais aujourd'hui, il y a une politique qui porte le nom de Schedule F, ne me demandez pas pourquoi, qui supprime les protections dont jouissent une catégorie juste en dessous de nombreux fonctionnaires qui n'avaient pas le statut de political appointees. L'affaiblissement des mécanismes de contrôle administratif ou parlementaire, la mise à l'index de courants de pensée, j'ai parlé de DEI, certaines amnisties, y compris de personnes condamnées après le 6 janvier 2021, la politisation des services de sécurité et le retrait arbitraire d'habilitation, ce que certains considèrent comme l'effacement de la ligne de partage entre intérêt privé et intérêt général, qui peut être la source d'enrichissement personnel, ce sont toutes des accusations, ou en tout cas des soupçons, qui sont présentés par ceux qui critiquent cette évolution. Le fonctionnement de la justice nourrit aussi les inquiétudes. J'ai parlé de la nomination de juges, de procureurs, encore qu'il faut bien reconnaître que d'autres administrations l'ont fait. L'attitude de la Cour suprême est intéressante. Et certains y voient un motif d'inquiétude en disant qu'elle a plutôt été dans le sens du pouvoir exécutif, par exemple en interdisant à des tribunaux de niveau inférieur de prononcer des injonctions à portée nationale, ou bien en utilisant souvent ce qu'on appelle le « shadow docket », c'est-à-dire un système qui permet à la Cour suprême de laisser l'administration aller de l'avant en attendant que le sujet est instruit sur le fond. Et puis, on mentionne la faiblesse du pouvoir législatif. De fait, les républicains qui ont la majorité dans les deux chambres n'osent que rarement s'opposer au président. Quant aux démocrates, sonnés par leur défaite, conscients de leurs erreurs lors du dernier cycle électoral, ils ont mis du temps à jouer leur rôle d'opposition. On voit pourtant que le Congrès essaye de jouer son rôle. Vous avez peut-être vu ces actions après les frappes contre des bateaux dans les Caraïbes au titre de la lutte contre le narcotrafic. Un autre point sensible à l'approche des élections de mi-mandat en novembre 2020 est évidemment l'intégrité des processus électoraux et des modalités de droit de vote. J'évoquerai aussi, mais je ne peux pas m'arrêter en détail sur tous ces points, et nous pouvons y revenir si vous le voulez, Les libertés académiques, la baisse des crédits de la recherche, le bras de fer avec certaines universités ou institutions culturelles, et certaines pressions, par exemple sous forme de poursuites judiciaires vis-à-vis de la presse. Mais je m'arrête sur la presse un moment parce qu'il y a eu un événement qui est intéressant. Je pense, pour ce qu'il veut dire, c'est l'éviction de la chaîne ABC d'une des stars des talk shows, Jimmy Kimmel, en septembre 2025, pour la manière dont il avait traité l'assassinat de Charlie Kirk. Et pourquoi est-ce que je trouve que cet incident est intéressant ? Parce qu'il y a eu un fort mouvement de contestation sociale, avec même un appel au boycott de Disney, propriétaire de la chaîne, qui a, semble-t-il, amené la chaîne à réintégrer l'animateur à l'antenne. Donc, on voit là un équilibre des pouvoirs, venant en l'occurrence de la société, et on le constate à d'autres occasions, en particulier dans la question déjà maintes fois mentionnée par moi de l'immigration et de ce que l'on voit actuellement à Minneapolis, avec évidemment le risque de déboucher sur des troubles à l'ordre public. La presse, dans une large mesure, la société civile, reste bien des contre-pouvoirs. Mais qu'en est-il des contre-pouvoirs institutionnels ? Le pouvoir judiciaire, celui de l'article 3 de la Constitution, incontestablement, est plus efficace actuellement comme contre-pouvoir que le pouvoir législatif, celui de l'article 1 de la Constitution. On a vu comment certaines procédures lancées contre des personnalités considérées comme des adversaires, comme James Comey, ancien directeur du FBI, ont été mises en échec par les juges. Et je reviens à la Cour suprême, car contrairement peut-être à ce dont on la soupçonne, à cause de sa majorité de juges conservateurs, moi, je pense, connaissant certains de ces juges, que leur intérêt, mais aussi leur conviction, c'est que consciemment, que collectivement, ils restent au niveau de leur rôle, qui est celui de clé de voûte, voire de dernier recours du système institutionnel et du respect de la Constitution. Et il y a effectivement deux affaires actuellement très importantes où, sans connaître leur décision, on évoque une possibilité qu'ils puissent infliger au pouvoir exécutif un certain désaveu. Ce sont des affaires que j'ai déjà mentionnées sur l'indépendance de la Banque centrale et sur l'utilisation des pouvoirs d'urgence pour, en temps de paix pour pouvoir décider des droits de douane. De même du côté des forces armées qui s'étaient opposées sous le premier mandat à leur utilisation en matière d'ordre public, il y a sans doute aussi un certain nombre de préoccupations, en tout cas de volonté de ne pas être entraîné trop loin. D'ailleurs, pour mémoire, la fédéralisation et l'utilisation de la garde nationale dans certains États, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'autres présidents y ont fait appel. Mais en tout cas, cette sensibilité existe encore certainement au sein des forces armées. Et puis, j'ai rappelé l'importance politique des États. Et s'agissant du Congrès, si l'on regarde les dernières élections locales, en Virginie et au New Jersey, elles ont confirmé le jeu habituel de l'alternance qui fonctionne au profit du pays dans l'opposition. On voit aussi que plusieurs sénateurs républicains ont publiquement manifesté leur opposition à l'idée d'annexer le Groenland. Évidemment, l'échéance décisive, c'est maintenant l'échéance des midterms début novembre qui peut faire basculer la majorité républicaine à la Chambre, qui est très faible, vers les démocrates. Pour finir, quelle trace laissera ce mandat dans la société américaine ? Évidemment, je n'aurai pas la prétention de le dire. J'ai simplement voulu dire qu'en inversant la question, que cette présidence est le résultat de certaines évolutions historiques plus ou moins récentes des États-Unis. Prenons l'exemple de l'immigration. Je pense que l'administration Donald Trump aura un effet durable en matière migratoire, dont les grands objectifs sont largement approuvés, même si, par contre, les méthodes brutales utilisées sont, d'après les sondages, critiquées par une majorité de la population. On ne voit pas une future administration démocrate complètement inverser la politique. Les États-Unis connaissent en la matière un des cycles longs qu'ils ont déjà parcourus dans leur histoire, succession d'ouvertures et de fermetures. La manière de faire de la politique peut être aussi influencée par le savoir-faire de l'actuelle administration et l'art de la communication du président Trump. On voit déjà certains de ses opposants démocrates, comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom, s'en inspirer, par ironie peut-être, mais aussi parce que le Parti démocrate et ceux qui aspirent au pouvoir, d'où qu'ils viennent, essayent de comprendre comment le style de la communication politique, comment le travail avec les influenceurs, comment les podcasts peuvent aider à trouver un accès plus direct à des larges audiences dans la population, notamment les jeunes et notamment tous ceux qui s'estiment laissés au bord de la route. Je prendrai l'exemple des politiques climatiques, qui, pour moi, est un exemple intéressant parce qu'il ne me paraît pas évident que la ligne pourtant très claire du président et de son administration, par exemple contre l'énergie éolienne, ait autant d'effets qu'on pourrait le penser. Car il y a des tendances très lourdes. Est-ce que, par exemple, on peut revenir sur la fin de l'exploitation du charbon ? Est-ce qu'on peut revenir sur la part prédominante des renouvelables, y compris le solaire, dans les nouvelles capacités de production électrique des États-Unis ? Ce n'est pas évident, tout simplement, pour des raisons liées à l'économie. Quant à la capacité de la société américaine de faire prévaloir les forces de tolérance et de liberté sur les excès, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, quelle que soit l'origine de ces excès, qui pourraient menacer les fondements démocratiques de ce pays, vous l'aurez compris, je reste optimiste, sans négliger pour autant les tensions que je me suis efforcé de décrire objectivement. Je reconnais que cet optimisme est autant de volonté que de raison. La raison, ce sont les ressorts de la vitalité démocratique toujours en place dans ce pays et que j'ai observé, l'attachement profond aux libertés. Pour résumer, je vois les Américains, dans leur grande majorité, s'identifier bien davantage au symbole du 6 juin que j'évoquais en introduction qu'au symbole du 6 janvier. Quant à mon optimisme de volonté, c'est d'abord l'admiration que nous avons pour les États-Unis, mais c'est aussi la conviction que notre propre avenir est lié à celui de leur démocratie, et ce de deux manières. La première, c'est évidemment l'importance de notre relation. Les coups de boutoir donnés actuellement par l'administration Trump, l'hostilité idéologique exprimée vis-à-vis de l'Union européenne en tant que telle, la description dans le discours de J.D. Vance à Munich ou dans la stratégie de sécurité nationale récemment publiée d'une Europe décadente, l'étalement de divergences sur la liberté d'expression, tout ceci ne peut que laisser l'impression d'un gouffre qui s'ouvre entre les deux rives de l'Atlantique. Peut-on se satisfaire de cette perspective sur le long terme ? Absolument pas. La défense de nos intérêts et de nos valeurs, à travers un renforcement de la souveraineté, de la puissance de l'Europe, ne s'oppose absolument pas à terme au maintien d'une relation forte entre les démocraties des deux côtés de l'Atlantique. Relation dont elles ont toutes les deux besoin. L'exemple de la défense et de la sécurité montre au contraire combien un sursaut des Européens pour assurer bien davantage leur propre sécurité, comme le leur demandent depuis longtemps leurs partenaires américains, est le meilleur moyen de garantir dans la durée la viabilité de l'Alliance Atlantique. Le deuxième lien qui nous unit est que bien souvent les tendances profondes de la société américaine sont aussi à l'œuvre chez nous ou viennent à s'exporter en Europe, soit par imitation instinct, soit plus profondément parce que finalement nos sociétés obéissent dans leurs évolutions aux mêmes forces. L'observation de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui comme à l'époque de Tocqueville est donc riche d'enseignements pour notre propre démocratie. Rappelons-nous que le héros des deux mondes, Gilbert Dumetier de Lafayette, a voulu non seulement aider George Washington à conquérir l'indépendance des États-Unis d'Amérique, comme ceux-ci s'étaient déclarés résolus à l'obtenir il y a 250 ans, mais qu'il a également, lui, Lafayette, des deux côtés de l'Atlantique, travaillé à l'instauration de sociétés plus libres et plus justes, en plaidant auprès de son père spirituel, George Washington, pour l'abolition de l'esclavage en Amérique dès la fin du XVIIIe siècle, et en jouant un rôle majeur dans la Révolution française, jusqu'au tournant d'août 1792. Je n'irai pas jusqu'à dire ce serait prétentieux, comme le général Pershing, ou plutôt son aide-de-camp, Charles Stanton, visitant le cimetière de Picpus en 1917, Lafayette nous voilà. Mais cette référence historique et nos combats communs du XXe siècle nous rappellent combien nous aurions raison, Français, Européens et Américains, de continuer à travailler ensemble à l'âge de l'intelligence artificielle en gardant le cap de nos valeurs communes. Merci de votre attention.
Cher Philippe, merci pour cet exposé absolument passionnant.